Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Radio Podcast sur la ligne, le Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, tournoi qui approche d'ailleurs à grands pas. Ce sera la semaine prochaine déjà, il y a des activités qui vont commencer, il y aura le tirage au sort du tableau principal. D'ailleurs, il y aura du sur la ligne, mur à mur durant cette semaine-là et on sera partout parce que Nico, tu seras à Toronto aussi, mais je te reviens tout de suite après les salutations. Mais il y aura du sur la ligne mur à mur. On aura une émission tout de suite après les présentations du tableau principal. On va faire une analyse. On sera là durant le week-end des qualifications, également à BPM Sport et évidemment toute la semaine parce que sur la ligne produit toute la semaine radiophonique de l'Omnium Banque Nationale. On est bien fiers de ça. C'est ce qu'on avait fait l'année passée. On est bien content de le refaire. Nicolas Richard, en direct de ton pittoresque Saint-Jérôme, comment te portes-tu?
Mirabel, Alex, Mirabel.
Oh, Mirabel, c'est vrai, tu as déménagé. Oui. Tu as passé au sud.
Je suis un sudiste, dorénavant, Alex. Non, ça va très bien. Puis je tenais, tu parlais du podcast sur la ligne qui sera mur à mur à l'Omnium Banque Nationale. Je tenais quand même à lever le chapeau à toi particulièrement et à toute l'équipe. Là. Je sais que tu ne le feras pas parce que trop humble, mais quand même, les vidéos qu'on a sorties au cours de la semaine, notre following tout au long de cette grandiose semaine qui s'est culminée par un triomphe de notre préféré Alexis Galarno. Notre travail, je pense, et Chalut Abraham au passage, et Hugues aussi, là, et Nick et Saraja, toute la gang, ça a été une semaine formidable qu'on a pu suivre sur Facebook, Instagram. Fait que, bref, un travail vraiment formidable de toute l'équipe.
Ben, t'es bien gentil. J'allais le souligner également sans nécessairement me taper dans le dos, mais surtout féliciter toute l'équipe. T'es venu faire ton tour également un peu plus tôt cette semaine, Nico. Abraham a été à la hauteur de ce qu'il fait semaine après semaine et encore même meilleur. Il aura contribué aux médias sociaux, comme vous le savez, mais il a fait des entrevues également cette semaine et je tiens à souligner ton excellent travail, Abraham. Ne finit plus de nous impressionner. Alors, excellent travail à toute l'équipe, je veux le souligner. C'était vraiment, vraiment plaisant cette semaine-là à couvrir. On est fatigué parce que c'est un 7 jours assez intense, mais je pense que c'est des événements qui valent la peine. C'est pas des événements qui sont couverts à la hauteur de ce qui devrait être couvert. Et puis, je pense que nous, la couverture a été bien appréciée. Avant qu'on passe un peu plus aux choses sérieuses aussi, tu parlais de Granby. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fans. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir pour me dire qu'ils écoutaient notre show. Bon, évidemment, quand on est à Granby, là, il y a des bonnes chances que ce soit des gens qui nous écoutent parce que ce sont sûrement des mordus de tennis. Et je vais en saluer un en particulier qui a pris la peine de venir me serrer la main. Là. Un petit shout-out là, à Carl Sigouin hier qui est venu me serrer la main, dire qu'il écoutait pas mal tous nos shows et qu'il est bien fan de ce qu'on fait. Alors, salut, merci de nous écouter. Puis, vous ne gênez pas pour venir nous voir si vous nous croisez, si vous nous reconnaissez. Évidemment, on est surtout audio, c'est peut-être pas nécessairement évident, mais il reste que si vous êtes des fans, vous voulez venir nous jaser, nous serrer la pince, nous dire ce que vous pensez du show, vous vous gênez pas. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer nos partisans. Abraham Santerre, je te salue. Comment te portes-tu, mon cher ami? Tu seras avec nous pour tout l'épisode en remplacement de Hugues Léger.
Ben oui, j'ai l'honneur de remplacer le grand Hugues Léger qui est parti en voyage en France. Mais je suis heureux d'être là. Je suis fatigué de la grosse semaine à Granby, mais je suis vraiment content de tout ce qu'on a pu faire, rencontrer des joueurs et même développer nos relations avec notamment Alexis, qui était vraiment hyper sympathique et gentil avec toute l'équipe. Donc, je suis bien heureux d'être là aujourd'hui aussi pour venir vous parler les garçons.
Ben oui, on se le cachera pas. On a toujours un petit coup de cœur pour Alexis et qu'il ait été champion. On aura l'occasion d'en parler en long et en large durant l'épisode. Mais on ne pourrait pas parler des championnats Banque Nationale de Granby, autrefois appelé Challenger de Granby, sans parler à Michel Tassé, qui est la bible sur le tournoi, celui qui l'a couvert depuis plusieurs années. Michel, toi puis moi, on se côtoie depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps, mais on se côtoie particulièrement à Granby. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir une fois de plus sur la ligne, puisque ce n'est pas la première fois que tu viens faire ton tour.
Hey, t'es bien fin, Alex. Merci beaucoup de me recevoir encore cette année.
Eh bien, écoute, ça va de soi, parce que, comme je disais, tu es la personne qui l'a couvert au courant de toutes les années. Je veux dire, quand on a besoin d'une stat, quand on a besoin de se faire rafraîchir la mémoire, on se tourne vers Michel Tassé, c'est sûr, parce que lui, il les a tout écrit, les articles, là, au courant des années. Alors, merci de faire l'épisode avec nous, puis de pouvoir nous donner ton input sur ce qui s'est passé cette année, mais aussi de voir, bon, comment cette édition-là, ben, s'inscrit dans la grande histoire de ce tournoi-là, et peut-être un petit regard sur ce qui s'en viendra. Alors, ben, merci infiniment de te joindre à nous. Ça va de soi. Et ben, justement, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Et on va commencer avec le champion du côté des hommes, un deuxième Québécois de suite qui l'emporte. Nico Richard, Alexis Galarneau remporte le titre le plus important de sa carrière. Et ce sera sans doute, honnêtement, un beau tremplin pour ce qui s'en viendra dans les prochaines semaines / les prochaines années.
Ça a été fantastique, les gars. Puis hier, lorsque je voyais ce match-là à distance et qu'il a enfin remporté ce, tu l'as dit, Alex, le titre le plus significatif de sa jeune carrière, je me rappelais la première journée, les gars, quand on est arrivé sur place lundi. Puis il me semble qu'il y avait de quoi dans l'air. Il y avait comme un engouement. Et il y avait surtout cette espèce de sensation qu'Alexis allait faire de grandes choses cette semaine. Peut-être que vous l'avez senti, du moins de ce que je me souviens en réécoutant les entrevues que j'ai faites avec lui. Il me semble qu'il y avait une prémisse intéressante et il a livré la marchandise. Il a dit « Je suis ici parce que j'aime jouer au Québec, mais aussi parce que je dois au public québécois qui m'encourage depuis plusieurs années un peu de réconfort, un peu de moment fort. » Il l'a fait vibrer. Vous étiez là, les gars, le stade central, je pense qu'il était conquis, il était ravi de cette victoire. Et Alexis, il est capable de briller dans les grands moments. Il l'a fait.
Ah, il a été exceptionnel et je pense que c'est une victoire assez particulière parce que l'année passée, après son passage à l'Omnium Banque Nationale, où il a, je pense, vraiment éclaté aux yeux du grand public avec sa performance, notamment contre Grigor Dimitrov, il a pris la chance d'aller jouer au US Open pour voir s'il allait pouvoir rentrer dans le tableau des qualifications au lieu de venir à Grimby parce qu'à ce moment-là, le tournoi était après et je pense que ça lui a déchiré le cœur d'être obligé de choisir entre les deux tournois. Et là, qu'il revienne cette année dans une édition beaucoup plus forte, parce que là, t'as pas l'US Open entre dans les pattes, et d'aller remporter ce tournoi-là. Je pense que vraiment, c'est mission accomplie, puis c'est une performance qui, bon, on va le suivre pour le restant de ses jours. Michel Tassé, commentaire sur cette performance-là d'Alexis Galarneau cette semaine?
Ben, j'aime bien ce que dit Nicolas il y a de deux secondes, parce qu'effectivement, on sentait Alexis Galarneau béni cette semaine. On a l'impression que tout roulait, tout fonctionnait. Les gens, dès son premier contact avec le public cette semaine, les gens sont tombés sous le charme. Ça a été la coqueluche du tournoi et il a été transporté par la foule. Et puis, c'était sa semaine. Je pense que jouer du gros tennis tout au long de la semaine, il n'y a pas d'issue personne. Et même dans les moments où est-ce que c'était corsé à un moment donné, il réussissait toujours à s'en sortir, toujours à amener sa game, si vous me permettez l'expression, un peu plus loin. Et puis, moi, honnêtement, les amis, je vous dirais qu'il a sauvé la semaine cette semaine à Granby parce qu'on l'attendait. Il y avait quand même des gros noms qui s'en venaient chez nous cette semaine. Bon, on parlait de Jennifer Brady qui faisait son grand retour. Brady était éliminé au deuxième tour. Il y avait Vachek Pospisil, Vachek blessé, pas en forme, a perdu en partant. Il y avait le favori australien qui a perdu au deuxième tour également. Donc, à un moment donné, au milieu de la semaine, on regardait ça et on se disait « Ouais, ben franchement, on s'embrouille avec ce tournoi-là ». Sauf que Galarneau a tenu le fort et il a amené le tournoi jusqu'à la fin. Il l'a transporté finalement sur ses épaules. Moi, j'ai pas de misère à dire qu'il a sauvé la semaine à Granby.
Ouais, ben en tout cas, il a été très bon. Et Nico, tu disais, tu sais, il y avait quelque chose dans l'air, peut-être qu'on l'attendait. Et oui, peut-être, mais c'est vrai qu'on attendait peut-être aussi beaucoup d'autres mondes. Tu sais, un Vachek Pospisil, je pense que s'il avait remporté le tournoi, il n'y a personne qui aurait été surpris de ça. Un Thanasi Kokkinakis également. Je veux dire, c'est un gars qui, bon, même si d'une journée à l'autre, on ne sait pas quel genre de performance il peut donner, il est tellement talentueux et était le mieux classé de ce tournoi-là. D'ailleurs, on a des clips de lui. On va les écouter un peu plus tard parce que honnêtement, je pense qu'il a donné une des entrevues les plus honnêtes que j'ai jamais entendues de ma vie. Là, on va faire ça écouter un peu plus tard dans ce bloc-ci. Mais il reste que Alexis a été... tu sais, j'en parlais un peu plus tôt en disant que c'était un tournoi beaucoup plus fort et ça n'aurait pas été surprenant de voir d'autres joueurs l'emporter. Il a été phénoménal. Nico, t'as l'air d'un gars qui voulait acheter quelque chose?
Non, mais je trouve ça quand même fou quand c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais tu sais, Alexis Galarneau a gagné un tournoi dans lequel paraissait Kokkinakis. Tu sais, c'est pas rien. Évidemment, ils se sont pas croisés, mais ça reste que Kokkinakis est un champion grand chelem en double, comme Vacek Pospisil notamment. C'est l'une des stars de la série Netflix. C'est un gros nom, les gars. Puis Alexis Gallardo a gagné un tournoi dans lequel paraissait et jouait ce grand joueur-là. Fait que je voulais le souligner parce que je pense que c'est aussi digne de mention.
Écoute, Kokkinakis a déjà battu Federer quand Federer restait numéro 1 au monde, là, on s'entend, là. Pas sur en déclin à la fin. Alors, en début d'année, il a battu le Russe qui est 6e mondial. C'était pas n'importe qui s'est amené à Green Bay cette semaine, là, c'est clair.
Oui, non, exact. Et puis, par ailleurs, il a une fiche gagnante contre Federer parce que ça a été le seul match qu'il a rejoué contre Federer. Alors, on va pouvoir se retirer en disant qu'il joue pour 1000 contre Federer. Abraham, je me tourne vers toi pour parler de Alexis Gallardo. Qu'as-tu pensé de sa performance cette semaine?
Ben moi, je retiens une chose en particulier. C'est quand il nous a dit que dans les moments difficiles dans ses rencontres, il devait rester calme et il appliquait cette tactique-là avec succès parce qu'il a réussi. Il ne s'est pas fait battre cette semaine, en fait. Et ça me fait penser à un moment durant la finale. Nous, on l'a vraiment vu de notre siège des médias où il y avait la coach de Philippe Sekulić, le joueur de 19 ans en finale qui était contre Alexis, qui s'est levé debout pendant deux jeux qu'Alexis était de son côté.
Mais c'était sa mère. Et
oui, sa coach
était la mère de l'adversaire.
Exactement. Ouais. Et elle encourageait vraiment beaucoup et très fort, puis elle semblait vouloir déranger Alexis. C'était un peu spécial comme moment. Elle encourageait son gars Philippe et elle se tournait vers Alexis, puis elle faisait comme des eye contact. Puis Alexis, comment il a réagi à ça? Il ne s'est pas laissé faire. C'était même à trois fois le jeu qui a eu des balles de bris. Alexis, il s'est mis à rire en regardant la mère de Sekulić en disant qu'est-ce que tu veux, tu sais, en riant, puis en tout respect. Il n'a pas manqué de respect à la coach et la mère de Sekulić. Et après ça, Alexis est allé vers la victoire et ça a fonctionné. Et la mère de Sekulić s'est rassis pour le reste de la rencontre.
Cette situation-là, moi, je commençais à me poser des questions à savoir si l'arbitre allait donner un avertissement. Parce
il est patient, l'arbitre.
C'était limite malaisant.
Mais il y a certains bénévoles qui se sont laissés porter par les émotions parce qu'ils se mettaient à y parler. Là. Arrête de coacher, malgré que maintenant, c'est légal de coacher. Et elle s'est tournée un moment donné en disant « I can coach my son ». C'était vraiment spécial.
Imitation à point, Burr.
Oui, exact. Merci. On dirait que c'est toi qui avais écrit le scénario de ce qui s'est passé. Mais non. C'est un peu spécial comme situation. Et tu as raison que ça aurait pu déranger Alexis dans un moment aussi important, aussi grand. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Il ne s'est pas laissé déranger. Il a même affiché son beau sourire là, comme seul lui en est capable. Alors, chapeau à Alexis. Et aussi, ce que je veux mentionner, ce qui est particulièrement important, et c'est Abraham qui lui a appris qu'il allait percer le top 200. Un peu plus tôt cette semaine. Il est au 162e rang mondial. Et ça, Nico, là, on se rapproche dangereusement d'une place qui pourrait changer sa carrière à court ou moyen terme. Parce que quand tu te rapproches du 128 et de rentrer dans des tableaux principaux, là, quand tu te rapproches du 128, 110, tu sais, dans ces eaux-là, là, puis que tu peux peut-être te rentrer dans un tableau principal ou en tout cas t'assurer de jouer des qualifs de grand chelem, ça peut changer une carrière au point de vue monétaire, notamment.
Oui, puis imaginez à quel point il peut se procurer de la confiance et à quel point il va être prêt pour la fin de saison. On sait, Alex, tu le disais au tennis, ça peut débouler extrêmement vite, gagner un tournoi, un premier tour, un troisième tour, engranger les points. Tu sais, il l'a dit, je pense, c'est dans l'entrevue de la finale ou de la demi-finale avec vous, les gars, que son objectif à court terme, c'était le top 150.
Ouais.
Et là, il est à 10 places. Là. Puis 10 places dans un deuxième tour, dans un troisième tour d'un challenger ou d'un tournoi en qualif, par exemple, d'un grand chelem, ça peut aller extrêmement vite puis ça peut débouler rapidement. Donc oui, il est à la portée de ce fameux top 150 qui, ultimement, tu l'as dit, Alex, lui donnera une tonne de privilèges. Puis c'est que du bonbon pour lui. Puis, tu sais, on en parle souvent au podcast, il y a des gens qui peuvent penser qu'après le top 100, c'est pas vraiment important ce qui se passe. Au contraire, c'est là que tout se joue. Fait que oui, pour Alexis, c'est non seulement une victoire, mais des points extrêmement importants.
Exact. Et aussi une bourse de 17 000 $ qui est de loin sa bourse la plus importante de la saison, mis à part ce qui se passe en Grand Chelem, parce que les bourses de Grand Chelem n'ont rien à voir avec les autres bourses, même si tu joues en qualification. Mais tu sais, si on regarde ces bourses-là un peu plus tôt cette année, regarde la semaine d'avant à Chicago, 780 $ 1300 $ à Broomfield, 1300 $ à Cali, 2200 avant ça, 3700, et c'était une de ses meilleures bourses alors qu'elle avait fait une demi-finale au Texas. un 17 000 $ pour un joueur de ce niveau-là, c'est apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène à une carrière et pouvoir jouer peut-être un peu plus léger. Je lui en ai parlé à quelques reprises cette semaine, mais tu sais, au moins, ça va pouvoir lui assurer pour peut-être un mois ou deux là, de jouer avec, ben, peut-être même d'ici le restant de l'année, là, avec les épaules un peu plus légères. Un peu plus légères. Parlant de Alexis Arneau, ben, évidemment, on lui a parlé après sa finale. On lui a parlé toute la semaine, en fait, mais voici ce qu'il avait à dire après sa finale.
Alexis, t'as souri toute la semaine. T'as une autre belle opportunité de sourire. Comment tu te sens alors que t'es champion à Granby?
C'est incroyable. Vraiment des belles émotions que je vis en ce moment. Puis de partager ça avec ma famille, mes amis, c'est un beau moment.
Parlons du match un peu. Par bout, cette semaine, tu t'es compliqué la vie. Ou en tout cas, les matchs ont été longs. On a eu droit à un autre long match. Fais-nous l'analyse de cette finale-là aujourd'hui.
Ouais, ben je dois donner quand même crédit à mon adversaire qui, je savais qu'il n'allait pas me la donner facilement. C'est un bon combattant, donc je m'y attendais. Par contre, c'est ça, je pense que j'ai été un petit peu plus défensif au deuxième set. J'ai été capable de bien me réadapter au troisième set. Puis l'énergie de la foule à la fin, vers 3-3, où est-ce que je sauve deux balles de bris, je m'en tire bien. Puis ensuite, ben, c'est ça, cette énergie-là m'a beaucoup aidé à aller chercher le bris puis finir ce match-là.
C'était la prochaine question. Bon, tu fais face à deux balles de bris, c'est un 15-40, si je me souviens bien, tard dans le troisième set. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Oui, ben j'essaie d'y aller avec mes meilleurs services. Je suis aussi quelqu'un qui aime ces moments-là, des points importants. Donc, j'essaie d'y aller, être agressif, d'y aller pour. Puis, ça a porté fruit. Je pense qu'au dernier match, déjà, on commençait à revoir un peu cette tendance-là avec des bons services au bon moment. Donc, déjà, je pense que j'avais construit un peu sur cette lancée-là, puis ça me donnait confiance.
Le monde va regarder ta fiche pro et dire « OK, il n'a pas disputé beaucoup de finales quand même dans sa carrière au niveau pro de cette façon-là. » Mais est-ce que tes années au niveau collégial américain t'ont aidé à mieux saisir ou gérer ce moment-là? Parce que c'est le genre de moment où vous vivez beaucoup plus souvent au niveau collégial américain, là, de la façon dont c'est fait.
Exactement. Je pense qu'à partir de 2-2 dans le troisième set, j'ai commencé à sentir une atmosphère d'université. Puis ça m'a pris un peu de temps avant justement de embrace cette atmosphère-là. Mais une fois que je l'ai, tu sais, que j'étais confortable, puis je me suis laissé aussi être un peu plus vocal, être un peu plus expressif avec mes réactions, je pense que ça m'a aidé justement à aller chercher un autre niveau. Puis justement, comme vous dites, c'est des moments passés à l'université comme ça qui m'aident beaucoup pour des gros moments comme ça.
Le niveau de nervosité était où à balle de match?
La première balle de match, je pense que c'est peut-être pas de la nervosité, par contre c'est peut-être un peu d'excitation. J'avais quand même le coup que je voulais avoir après le retour. Je pense que j'ai peut-être un petit peu précipité mon coup, mais ensuite je me suis bien remis avec un bon service puis un autre bon service ensuite.
Puis sur la balle qui a conclu, tu te sentais comment juste avant de lancer la balle dans les airs? C'est-à-dire que tu avais peut-être une chance de remporter un tournoi de niveau ETF assez très élevé même.
Ouais, j'essayais de pas trop y penser, ni même penser à ma célébration ou quoi que ce soit. Juste essayer de rester dans le moment présent. Ça a été un peu ça toute la semaine, donc c'était un moment de plus à rester justement dans le présent. Par contre, une fois que j'ai su que mon service était bon puis qu'il avait raté, ça a été un soulagement de finalement terminer ce match, qui était quand même un peu plus compliqué qu'on peut penser si on regarde le score seulement.
Les premières personnes vers qui tu as regardé, c'est ta famille qui était là pour te supporter. Parle-moi un peu du sport de ta famille et peut-être de ta mère qui t'encadre là, à peu près à tous les niveaux de ta carrière tennistique.
Oui, ben ma mère, c'est la personne la plus importante dans ma vie. C'est quelqu'un à qui je peux lui demander des conseils. Je pense qu'elle a un résumé que personne d'autre a d'avoir élevé 4 enfants. Elle a eu plusieurs différentes jobs. Puis c'est la personne qui me connaît le mieux, donc je le sais que je peux lui faire confiance. Les sacrifices, puis l'encouragement surtout qu'elle m'a toujours donné à continuer de croire en moi, croire en mes projets. Puis c'est ça, c'est un moment aussi que je voulais partager avec elle, puis avec ma famille, c'est la même chose. Ils ont tous fait des sacrifices, autant au niveau opportunités de sport. Tu sais, il faut les mettre les sous dans le tennis, mais ils ont toujours compris ça, puis ils m'ont toujours supporté dans ça.
Et bon, à quel point cette performance-là, cette semaine, va être significative pour les semaines qui s'en viennent? Bon, évidemment, il y a Toronto qui s'en vient, peut-être même un US Open. Tu te rapproches là, au niveau, tu vas être autour de la 140e place mondiale, si je ne me trompe pas. Là. 160e place mondiale. Tu te rapproches des classements pour jouer des premiers tours de tableau principal en Grand Chelem. À quel point c'est significatif pour toi?
Oui, j'essaie d'y aller une étape à la fois. C'est sûr que là, je sens que c'est une étape que j'ai franchie. Gagner mon premier Challenger, c'était un de mes objectifs cette année. Puis l'autre objectif, c'est d'être dans le top 150. Donc, je pense que je suis bien parti. Je focus surtout sur le processus, focuser sur moi, qu'est-ce que je peux contrôler. Puis ensuite, si j'ai des opportunités de percer, ben, je vais les utiliser parce que je suis prêt à les avoir.
Et là, tu n'es pas obligé de tout nous révéler, mais on célèbre ça comment? Un premier titre en Challenger comme ça?
Ouais, je pense qu'on s'en va tous au shaker. on va aller célébrer ça peut-être avec une bière ou deux, puis possiblement rentrer à la maison demain matin si quelqu'un a trop bu. Mais sinon, si les gens ils consomment avec modération, on va retourner peut-être à Laval ce soir.
Peu importe d'avoir resté prudent, c'est ça l'idée. Hein?
Exactement.
Merci Alexis, félicitations.
Merci à vous.
Nico, il est toujours tellement sympathique, Alexis. Hein? Il est vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de pouvoir jaser avec lui toute la semaine.
C'est dur de ne pas l'aimer. Disons ça comme ça.
Exact. Michel, toi, tu l'as interviewé toute la semaine. Tu le trouves comment à interviewer, Alexis?
Ben, c'est très agréable parce qu'il est très, je veux dire, il raconte toujours des choses intéressantes, c'est un homme extrêmement positif et l'énergie qu'il dégage sur le court, la sympathie qu'il va chercher auprès des fans sur le court, il va chercher la même chose du côté des médias. Je veux dire, il est franc, il est honnête, il n'y a pas beaucoup de fil dans ses entrevues, il est généreux de la même façon, il répond à toutes les questions. On ne sent jamais qu'il est pressé et qu'il veut faire ça vite. Alors, pour un journaliste comme nous, Nicolas et compagnie, là, c'est bien le fun de parler à un bonhomme comme ça.
Du côté des femmes, on avait également une Canadienne en finale, pas celle qu'on attendait. On aurait peut-être attendu Rebecca Marino, mais on a eu droit à Catherine Sebov qui, bon, honnêtement, connaît quand même une saison avec des flashs intéressants. Oui. C'en était un autre aujourd'hui. Michel, j'ai commencé avec toi. Tu as pensé quoi de la performance de Catherine Sebov qui s'est finalement inclinée en finale dans un long match, un match très serré, mais c'est une autre belle performance pour Sebov à Granby.
Ben écoute, Sebov à Granby, là, c'est assez incroyable. C'était sa 6e participation au tournoi cette année. Et en 6 participations, tu parles de 2 finales, de 3 demi-finales. Il y a une seule fois seulement qu'elle a été éliminée au 2e tour. Et moi, je lui parlais samedi après sa demi contre Marino. Et elle me disait, j'adore jouer ici, j'adore jouer au Québec. Puis savez-vous pourquoi? Moi, je viens de Toronto, là. Mais à choisir entre jouer à Montréal et Toronto, j'aime mieux jouer à Montréal. Et les gens ont une sympathie également pour elle à Granby. Bon, là, c'est sûr que samedi, je pense que les grands biens étaient l'avantage du côté de Rebecca Marino, mais elle a eu une très bonne semaine. C'est une fille qui... c'est un peu dommage, puis vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu hier, là, qui n'a pas beaucoup d'exposure au plan national. Tu sais, on ne parle pas beaucoup d'elle. Elle ne s'aide pas toujours. Bon, hier, ça a pris pratiquement 1h30 avant qu'on puisse lui parler, mais ça reste un beau talent. Et là, je pense que ce matin, elle est 136, 138e au monde, quelque chose comme ça. Ça s'approche de son meilleur classement en carrière. Et puis, il y a de quoi à faire avec cette fille-là, là, clairement. Il y a de quoi à faire avec elle.
Elle est 139e au moment où on se parle, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est une fille qui a eu des beaux flashs. Elle s'est qualifiée un peu plus tôt, elle, cette année, en Australie. Bon, elle avait joué contre Caroline Garcia au premier tour. Ça avait moins bien été, mais Caroline Garcia, c'est une émergeuse au monde. Elle était allée remporter un tournoi à Toronto de type ITF pas bien longtemps après ça. C'est quand même un titre. Elle s'était également qualifiée à Miami. Tu sais, c'est pas un petit tournoi, là, Miami. Elle s'était qualifiée à Charleston. Mmh. C'est une fille qui, là, on dirait, là, est sur le bord de peut-être connaître une certaine éclosion. Elle aussi est très près des rangs pour accéder au Grand Chelem sans avoir à passer par les qualifications. Là, évidemment, il faut rappeler qu'il y a quand même des wildcards dans ces tableaux-là, mais il reste que quand tu es dans le top 128, là, tu te donnes de bonnes chances de pouvoir rentrer dans des tableaux principaux. Et tu disais, on a attendu 1h30 avant de lui parler. C'est vrai. Cela dit, ce que je vais lui rendre crédit et Et ce que je veux que les gens comprennent, c'est que même si elle n'a pas eu des résultats exceptionnels, elle a une éthique de travail et une dédication absolument phénoménale. Parce que si on a entendu une heure et demie pour lui parler hier, c'est parce qu'après son match qui a duré plus de 3 heures, elle est allée frapper des balles avec son coach pendant 1h15, 1h20 avant de venir nous parler. Et elle venait de jouer une finale, elle a joué toute la semaine, un match long de 3 heures, et elle va frapper des balles après. Elle n'était pas satisfaite. Imaginez, tu sais, ça en vous dit long sur comment cette athlète-là est prête à tout pour pouvoir s'amener à un autre niveau. Et j'ai tendance à croire qu'avec une éthique de travail comme ça, les choses vont débloquer éventuellement. Justement, on lui a parlé, elle, Catherine Sebov, après sa finale. Elle était évidemment déçue, mais elle réussissait quand même à dire que c'était une bonne semaine.
I think it was a really good match for both Kayla and I. There are definitely things that I could have done better and taken charge of being a little bit more aggressive at times, going for my shots a little bit more. But overall, I think it was a great learning match.
We saw you hitting some balls after this long final over 3 hours. You do this often, hitting balls right after a long match like this?
Yeah, I try to hit balls after every single match, and especially if I lost, like I try to finish on a good note, and especially if I know what I want to work on and, you know, what I didn't do in the match as well, then I want to get it better right after.
You look pretty disappointed here, but still it's a great week here in Granby. Can you find some positive, like, right now?
Of course. I had good matches this week. Yesterday with Rebecca was, you know, definitely the best quality match I've had, and I find those matches very valuable, and I mean, for what it's worth, I got as many matches as I could this week, so that was the goal, and I'm happy with that.
Overall, in the last 12 months, you've been progressing a lot. I mean, the result I've been here in smaller tournament, got qualification in some big tournament also. Do you feel your game is getting better day after day?
I would say so, yes. I'm staying very positive. I'm trying to just keep improving every single day. And at times it's hard to see the improvement that you made, but it's there. And I'm definitely going on the right track.
You've been here in Granby for many, many times. And do you feel a bit like home here?
Yeah, absolutely. Granby is one of my favorite places to play, if not my favorite. I've always done well here, and I'm definitely very happy that I've played here again, and maybe I'll be back.
All right, congratulations for a great week.
Thank you so much.
Alors, c'est Bof qui disait qu'elle était contente de sa semaine. Évidemment, vous l'avez entendu dans son ton de voix, elle était particulièrement déçue, mais est revenue sur le fait qu'elle adore jouer à Granby et qu'elle performe toujours bien à Granby. Puis, on lui a aussi posé la question à savoir, est-ce que c'est normal d'aller frapper des balles, tout ça, après un match de 3 heures? Elle dit oui, je le fais assez régulièrement, surtout quand je perds. Alors, vous voyez, même quand c'est une défaite en finale, elle va aller frapper des balles après. En tout cas, 10 sur 10 pour l'éthique de travail dans le cas de Catherine Sebov. Nico, rapidement, un commentaire sur Sebov?
Pas grand-chose à ajouter, les gars. Comme disait Michel, on en parle très peu, mais ça demeure qu'à 24 ans, elle a le potentiel, Alex, tu l'as dit, d'au moins entrer dans les tableaux Grand Chelem. Puis tu sais, juste au cours de cette semaine-là, elle était 5e tête de série, elle a battu la 4e, elle a battu la 1ère, qui était Marino, et elle a perdu en 3-7 en finale contre la 3e. Donc oui, elle a joué au-dessus de son rang toute la semaine, et je pense que ça prouve à quel point cette fille est capable, je pense, d'accrocher l'autre niveau.
Et rapidement, Alex, moi, ce qui m'impressionne aussi chez elle, tu parlais de son éthique de travail, mais sur le terrain, là, sur le court, là, c'est un pitbull. Elle lâche jamais, à un moment donné, ça va pas les affaires, mais elle lâche jamais, elle revient toujours. Elle a une détermination sur le terrain, là, moi, pour lequel j'ai énormément d'admiration.
On va faire une courte pause et au retour, on continue notre bilan de ce qui s'est passé à Granby.
Rendez-vous le dimanche 23 juillet à 9h à l'Hôtel Montville pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Entre amis, en famille ou en couple, rejoignez-nous. Et pour les plus gourmands, l'offre yoga et petit déjeuner vous permettra de vous régaler après l'effort au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Est-ce que vous planifiez une escapade estivale à Montréal? Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de réduction sur 3 nuits minimum, 20% de réduction sur 5 nuits minimum et 25% de réduction sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne Balado, le Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de Balado et qu'on est diffusé également à BPM Sport et qu'on sera mur à mur durant l'Omnium Banque Nationale, autant sur Internet, sur les médias sociaux qu'à la radio. On en a parlé en début d'émission. Je veux qu'on parle de quelques autres performances, Nico. Rapidement sur Rebecca Marino. On l'attendait peut-être championne, mais il reste que, bon, dans les circonstances, c'est pas une mauvaise performance quand même, une demi-finale.
Non, mais pour elle aussi, puis je vais réitérer ce que je disais tantôt à propos d'Alexis, lorsqu'on lui parlait en début de semaine lundi, on sentait qu'elle était confiante, qu'elle était en pleine possession de ses moyens. Tu sais, Rebecca, elle a quand même joué les 8 derniers tournois du Grand Chelem. C'est une surface qui lui sied bien, celle de Granby, une grosse serveuse qui revient sur dur. Elle était première tête de série. Je pensais très humblement qu'elle allait remporter les grands honneurs à Granby. Pas une performance complètement décevante, mais compte tenu du résultat et des attentes que j'avais placées en elle, je suis un peu resté sur ma faim de voir Rebecca s'incliner comme ça dans ce match-là. Mais ça demeure que c'est une demi-finale quand même. Mais à quelques jours de l'Omnium Banque Nationale de Montréal, tournoi pour lequel elle a obtenu un laissez-passer, je suis convaincu qu'elle aurait aimé sortir et quitter l'estrie avec peut-être un peu plus de confiance.
Oui, je comprends. Michel, rapidement sur Marino.
Absolument d'accord avec Nicolas. Je pense que cette semaine, par contre, l'horaire ne l'a pas favorisé beaucoup, là. Elle a commencé à jouer seulement mercredi. Donc, à partir de mercredi, il n'y a eu aucun congé. Elle a été sur le terrain mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle a joué des matchs, plusieurs matchs de jour également, à la grosse chaleur. Il y a eu les délais de pluie. Samedi, elle est embarquée sur le terrain deux fois. Et on l'a vu là, contre Catherine Sebov au troisième set. Là, il ne se passait plus rien. Elle n'avait plus de jambes. Elle était à moitié morte. Puis c'est ce qu'elle nous a dit après. Mais moi aussi, j'aurais mis mon argent sur Rebecca Marino cette semaine.
Ouais, exact. Et juste un petit message, parce que tu sais, on a parlé de Catherine Sebov dans le premier bloc qui s'est inclinée en finale. Peut-être une mention pour Kayle O'Day qui l'a remporté ce tournoi-là. Oui. faudrait peut-être le souligner également que Kayle O'Day a remporté ce tournoi-là. Elle va être à suivre cette fille-là, Kayle O'Day. Moi, je la connaissais pas beaucoup, mais écoute, c'est une fille qui se rapproche elle aussi dangereusement elle est déjà dans le top 100, là. Elle est 94e mondiale, mais ce que j'allais dire, c'est de s'assurer de jouer régulièrement les grands chelems dans les tableaux principaux. Alors bravo à Kayle O'Day qui a eu une semaine exceptionnelle et on a vu qu'elle était particulièrement contente de l'emporter. Rapidement, je veux qu'on parle de Ashlyn Kruger. Pourquoi? Ben parce que c'est elle qui a battu deux Canadiennes qu'on suit beaucoup, Victoria Mboko et Kayla Cross, qui sont deux espoirs magnifique qu'on a eu la chance de voir à Granby. Je veux surtout mentionner que Victoria Mboko, si vous avez eu la chance d'avoir joué à Granby, c'est tout un talent. Elle n'a que 16 ans. Vraiment, là, c'est un nom à retenir. Je l'ai vu frapper là, cette semaine. C'était absolument phénoménal ce qu'elle a réussi à faire. Ashlyn Kruger a battu Kayla Cross au premier tour et a battu Victoria Mboko au deuxième tour. Je parlais qu'il y avait Thanasi Kokkinakis un peu plus tôt dans ce tournoi-là. Bien, on a eu l'occasion de le rencontrer. On lui a demandé notamment pourquoi est-ce qu'il avait décidé de venir à Granby. Je vous propose d'écouter son entrevue. C'est assez spectaculaire.
Thanasi, first game here, first victory, first comments after this first game here in Granby.
Yeah, very tough match, very tricky opponent. He's had a couple of matches. I haven't been playing much lately. Wasn't coming into the tournament with very high expectations, to be honest. I hadn't sort of picked up a racket since Wimbledon. I hit my first ball yesterday, so I just needed a break. And he was playing well. I had a match point in the second set and just missed a ball that I usually make, but that's tennis, so happy to win.
Obviously, you played in some of the biggest tournament in the world, and now coming here, what was the decision behind coming in this challenger here?
Well, I just came off a holiday where I wasn't doing much tennis and doing a lot of other stuff that wasn't helping my tennis performance. So my reason for coming was I have to get back into it. I was deciding whether to play or take a training week before the next week. But I thought, you know, if I whatever happens, I'll try and get a match before my next few tournaments and go from there.
Do you feel that the rust is off now that you had a real first long game, a long match?
Probably not yet. I think it's going to take 2 or 3 weeks until I'm playing how I want to be playing. But you know, every win gives me an opportunity to play a bit better. So we'll see what happens.
And how do you like it so far in Granby? I guess it's your first time here. Do you like it here?
Yeah, I haven't spent much time here. I don't think I've discovered all there is here. But we're at a nice hotel, and it's just good to have no distractions and just focus on tennis.
And are you surprised with maybe the crowd? Because it's a challenger, but there's usually a big crowd here. So were you surprised to see that much people, even with the rain?
Yeah, it was good, especially, you know, coming on later, there was even more people. So it's always great, you know, that's why you play. You don't want to play in front of just the ball kids and umpire. So it's great having the locals come out. It makes the tournament feel special. And, yeah, hopefully they can keep coming out and supporting.
And last thing, you said that you were coming here to get some rhythm a little bit, but still, do you have like any goals? You're obviously the favorite here, so do you kind of expect to win the tournament?
No. If you saw my preparation the last few weeks, I definitely wouldn't think I'm favorite. I think there are guys that are in better shape than me right now. Maybe if I was playing this tournament in 2 or 3 weeks' time, it's a different story, but who knows? I know where my tennis is when I'm healthy. I'll be very sore tomorrow. I haven't played a practice set until that match, so I'm a long way off, I think.
Well, that might be the most honest post-game interview I ever had in my career. Thank you for that.
No, it's what I do. Thank you.
Thank you.
Thanks.
Alors, Thanasi Kokkinakis qui disait qu'il n'a pas fait grand-chose et qu'il avait hâte de taper des balles et qu'il n'avait particulièrement rien fait pour aider son tennis durant ses vacances. Il a finalement fait un court passage à Granby, mais c'était quand même très intéressant de le rencontrer. Même chose dans le cas de Jennifer Brady qui, elle, effectuait un retour. C'est une ancienne championne de ce tournoi-là. On l'a rencontrée, elle également, Jennifer Brady. Je vous propose de l'écouter.
Jennifer, congratulations. How does it feel to be back with a win?
Yeah, you know, it feels great. You know, it's been a while since I've played, since I've competed, and actually, you know, I won a match. So super, super happy to come back here in Granby and get my first round win.
How did you feel on the court? Did you feel any issue? Did you feel like really ready to go?
Yeah, you know, before the match, I was extremely nervous, and I think, you know, that was to be expected. But I started off well in the beginning of the match and kind of settled in and really felt comfortable out there.
Were you surprised by, like, the media attention that you had the last couple of days, even though you played a challenger or a smaller tournament? Like, there were a lot of media attention around you coming back.
Yeah, you know, I tried to block out a lot of the noise and, you know, just kind of focus on myself and know that, you know, I put in the work, I'm ready, and, you know, I trusted in my preparation.
Was there anything special about Granby? Was it just maybe a schedule thing that the tournament was right at the right place for you coming back, or maybe winning in the past was something that you had in mind too?
Yeah, I'd say a little bit of both. You know, obviously, I was here back in 2016, I won the tournament, so, you know, I was familiar with Granby itself, and you know, I knew kind of what to expect, but also was, you know, it seemed to work out, so it was right place, right time.
All right. Good luck for the rest of the tournament.
Thank you. Thanks a lot.
Jennifer Brady qui raconte que, bon, le fait d'avoir gagné ce tournoi-là dans le passé l'a motivé à venir à ce tournoi-là. C'était un retour au jeu, elle a choisi de revenir à Granby et je trouve que c'est une belle marque de confiance pour le tournoi. Et ça a fait jaser beaucoup là, son retour là, aux États-Unis. Notamment, c'est une joueuse quand même, une ancienne finaliste de Grand Chelem. Alors, c'était bien intéressant de l'avoir également avec nous. Bon, question de poursuivre notre bilan du tournoi, je vous propose d'écouter Richard Crillon, le directeur du tournoi, qui fait son analyse de ce qui s'est passé la semaine passée.
On continue notre bilan des championnats nationaux de Granby. Cette fois, c'est avec le directeur du tournoi, Richard Crillon. Richard, la finale vient de se terminer au moment où on fait l'entrevue. Bon, quel est ton premier feeling du déroulement du tournoi? Es-tu satisfait de comment ça s'est passé? J'imagine qu'avec une victoire québécoise, ça aide aussi à terminer avec le sourire.
Oui, non, absolument. La finale était tout à fait exceptionnelle. Deux années d'affilée, avoir un Québécois qui remporte le tournoi. Je veux dire, je pense qu'en début de semaine, si on avait essayé d'imaginer un scénario, je pense que ça aurait été celui-ci, là, le scénario vraiment idéal. Écoute, il y avait tellement de monde qui appuyait Alexis. Puis je pense que ça a joué vraiment beaucoup là, dans ses performances tout au long de la semaine. Puis surtout en finale, là, il y avait un gros match là, avec son adversaire qui a vraiment sorti quand même un bon match. Mais tu sais, je dois avouer aussi que passer à travers les qualifications, gagner deux matchs dans les qualifs et puis gagner après ça quatre autres matchs dans le tableau principal, il devait être peut-être quand même un petit peu fatigué, mais il a joué du gros tennis. Et puis Alexis, tout à fait impressionnant. Mais tout au long de la semaine, ça a vraiment été une super bonne semaine. Peu importe la température qu'on a eue, on commence à être habitué un petit peu à ça. On sèche, puis après ça, on continue. Puis les gens l'ont fait avec beaucoup de sourire puis d'enthousiasme. Il n'y avait pas de problème avec ça. Puis on a été capable de tout jouer nos matchs. Et puis les joueurs, et autant que les spectateurs et les différents bénévoles ont été très patients, puis très ont travaillé tous très fort. Donc ça a été, en général, une très, très bonne semaine. Sur le plan des performances sur le court, ben là, à ce moment-là, c'était vraiment très, très bon. On souhaite de faire ce genre de tournoi pour avoir le plus de joueurs et joueuses qui vont loin, qui accumulent des points. Puis ça a été, je pense, une mission accomplie. On a eu quand même quelques joueurs qui ont fait les demi-finales avec Rebecca, Catherine en finale. On a eu aussi Marina Stakusic qui s'est rendue aussi très loin. Et puis Cadence Brace qui a remporté aussi son premier tour, puis quand même à un très jeune âge. Et puis elle a quand même très bien fait aussi. Du côté des garçons, ben Justin Boulet qui est sorti un petit peu nulle part aussi, partait très loin, et puis ben, d'avoir quand même remporté plusieurs matchs dans un tournoi aussi élevé que ça, c'est probablement sa meilleure performance en tournoi. Et puis ben du côté de Vachek Pospisil, un petit peu décevant, c'est sûr. Vachek ben, revient quand même de plusieurs blessures, quand même qui a ralenti vraiment sa saison, lui qui avait vraiment bien terminé l'an passé. Mais bon, je pense que ce n'est que partie remise pour Vachek. J'espère qu'il va avoir un bel élan là, qui va débuter avec le tournoi à Toronto dans quelques semaines. Puis sinon, ben, que dire de la performance d'Alexis, vraiment fantastique, du début jusqu'à la fin. Non seulement sur le terrain, il est électrisant, il est super le fun d'avoir joué, puis il y a un style de jeu aussi que les amateurs aiment beaucoup. Mais en plus de ça, c'est sa personnalité à l'extérieur du terrain qui fait de lui vraiment, je pense, un joueur extrêmement charmant, très attachant. Puis c'est ça. Ben, écoute, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux de ce côté-là. Un fantastique tournoi tout au long.
C'est un résumé assez complet. Et ça, on peut ajouter aussi au nom Jennifer Brady qui est venue faire son retour au jeu. Et je voyais sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui a fait quand même beaucoup jaser, le retour de Jennifer Brady. Et tu sais, qu'elle vienne le vivre ici, c'est quand même un statement assez fort parce que c'est une fille qui a été dans le top 20 mondial, qui a été finaliste de Grand Chelem. Alors qu'elle décide de venir à Granby, c'est quand même un beau vœu de confiance pour vous. Et Tanasi Kokkinakis qui est venue aussi dans le tournoi, elle s'est fait éliminer assez rapidement. Mais au final, tu donnes une entière satisfaction sur le tournoi. En gros, tu mets ton étampe de directeur de tournoi sur ce tournoi-là, c'est ce que je comprends.
Oui, non, absolument. Vraiment, là, ça a été vraiment bien. Écoute, j'ai senti aussi, là, en parlant avec les différents membres du comité organisateur, à quel point ils étaient satisfaits. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est mission accomplie cette semaine.
Et là, bon, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui s'en vient pour le tournoi? Parce que j'imagine que, te connaissant, tu as déjà commencé à regarder vers l'édition 2024, ou en tout cas, si pas encore, ça viendra dans pas long. Bon, c'est quoi la vision à moyen terme pour les championnats de Banque nationale de Granby?
Bien, on est victime un peu de notre succès. T'sais. On a vraiment une grande foule qui se déplace à chaque jour pour venir voir le tournoi. C'est plus rendu simplement une question de vendre à pleine capacité une soirée ou deux soirées. C'est presque toute la semaine maintenant. Donc, on a un petit défi de ce côté-là. Je pense qu'un des plus grands défis qu'on a eu cette semaine, c'était de répondre aux demandes qu'on a eues en termes de demandes de billets. Et puis, donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on regarde. Il y a plein de stratégies au niveau de la billetterie qu'on peut commencer à utiliser pour nous permettre d'aller chercher plus d'inventaire et puis de satisfaire plus d'amateurs de tennis, parce que c'est vraiment ça le but. Hein. Une fois qu'on est complet, ben maintenant, c'est essayer de justement de trouver une façon de faire rentrer plus de monde possible. Fait que ça, on va se pencher là-dessus. Il y a plein de petites stratégies qu'on va mettre de l'avant. Côté installation, ben, j'ai l'impression que le tournoi de l'an passé a donné un petit coup de main aussi à celui de cette année, parce que si on regarde juste le cours central, par exemple, je trouve que vraiment le cours central a pris vraiment des allures de terrain, de niveau, des plus hauts niveaux professionnels, puis je pense qu'il faut être très fier de ça. Sinon, ben, tous les autres terrains, même les terrains de matchs secondaires qui étaient très, très bien aussi installés et tout ça. Donc oui, peut-être regarder, améliorer un petit peu l'installation pour les spectateurs sur les terrains secondaires. Je regardais juste le terrain numéro 4, qui était un terrain où on a joué quand même plusieurs matchs de l'ATP de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, j'ai compté à peu près 125 personnes. Puis, c'est pas vraiment un endroit facile pour regarder des matchs. Fait qu'on pourrait peut-être voir pour améliorer un peu les gradins de ce côté-là pour avoir peut-être une meilleure vue sur le terrain. Sinon, ben, les installations des joueurs, j'ai fait le bilan un petit peu avec le superviseur tantôt, puis c'était positif. Les installations sont bonnes. On a la chance de pouvoir aller avoir quand même beaucoup d'espace, que ce soit à l'école en arrière ou à l'église. Donc, on est capable de s'installer. Idéalement, ben, peut-être qu'on aurait un petit peu plus d'espace dans le chalet ici. Mais somme toute, c'était avec l'installation de la terrasse extérieure et puis c'était quand même très confortable. Et puis les commentaires étaient très, très positifs. Fait que pour être franc, il faut vraiment construire là-dessus puis continuer simplement de peut-être peaufiner certaines choses, là.
Donc, c'est encourageant. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de matériel pour travailler ici même sur le site à Granby. On n'est pas si limité que ça, de ce que j'en comprends. Richard, merci infiniment pour cette semaine-ci. J'ai l'impression qu'on va se reparler plus tôt que plus tard parce qu'il y a un autre gros tournoi qui s'en vient à Montréal. Fait qu'on va te laisser aller te préparer pour ce tournoi-là. Et merci infiniment d'être passé une fois de plus sur le podcast Sur la ligne.
Merci, Alexandre.
Merci une fois de plus à Richard Quirillon. Et de Richard, ben, on passe à Patricia, qui est la directrice du comité organisateur. Elle aussi, elle avait son bilan à faire du tournoi.
Patricia, maintenant que le tournoi est terminé, comment on se sent? Est-ce qu'on peut dire mission accomplie?
Ah oui, mission accomplie, absolument. Je suis vraiment contente. Alexis vient de remporter. On a eu deux belles finales ce soir, aujourd'hui finalement. Des bons matchs, ça a été long, ça a été plaisant. Je pense que oui, mission accomplie toute la semaine.
Le podcast Sur la ligne, l'équipe de Sur la ligne a été là toute la semaine. Les gradins ont été presque pleins, et ça malgré la pluie là, tout le long de la semaine. Est-ce qu'au niveau de la vente de billets aussi, on peut dire mission accomplie parce que ça semblait sold out là, presque toute la semaine?
Ouais. Effectivement, on était sold out là, de mardi jusqu'à dimanche, là, puis il restait quelques billets le lundi. Oui, on doit avoir, j'ai pas les chiffres, là, mais on a eu au moins 9000 personnes qui sont venues ici. Là. Puis j'ai pas les statistiques présentement pour les cohortes secondaires. Fait que j'ai bien hâte de voir les chiffres cette année, mais oui, ça a été une belle semaine.
Est-ce que c'est un tournoi que tu connais bien, t'en es, comme tu dis, un peu la colonne vertébrale, mais est-ce que tu es surprise année après année de voir que le monde continue de venir et qu'il y a un attachement vraiment, vraiment profond à ce tournoi-là, non seulement dans la région, mais au Québec? Là.
Oui. À toutes les années, je suis vraiment tout à la surprise. Les spectateurs sont au rendez-vous. Nos bénévoles, à toutes les années, s'améliorent. Ils m'impressionnent, ils sont toujours là. C'est comme, on dirait que tout se fait par magie ici. On organise quelque chose, puis magie, c'est tout est beau, tout est en place. Puis cette année, je pense que nos installations, là, c'était vraiment bien. Toutes les années, on essaie de s'améliorer, mais là, je pense que plus on avance, plus à un moment donné, on va atteindre peut-être proche de la perfection.
Merci, Patricia.
On va faire une courte pause et au retour, on va regarder ce qui s'est passé un peu ailleurs dans le monde du tennis avec Abraham Santerre notamment.
Rendez-vous le dimanche 23 juillet à 9h à l'Hôtel Montville pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Entre amis, en famille ou en couple, rejoignez-nous. Et pour les plus gourmands, l'offre yoga et petit déjeuner vous permettra de vous régaler après l'effort au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Est-ce que vous planifiez une escapade estivale à Montréal? Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de réduction sur 3 nuits minimum, 20% de réduction sur 5 nuits minimum et 25% de réduction sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
On a fait un épisode presque complet sur les championnats Banque nationale de Granby. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir en entrevue avec nous. Mais il y avait quand même du tennis à l'extérieur de ce qui s'est passé à Granby sur la planète tennis. Il y avait notamment le retour de l'UTS. Si vous avez pu suivre un peu ça, c'est toujours un tournoi un peu spectaculaire. Mais Abraham, tu as fait le résumé de ce qui s'est passé un peu ailleurs. Je te laisse aller, mon beau garçon.
Ben oui, on va commencer par l'ATP. Il y avait un tournoi, encore une fois, sur gazon. C'est le dernier tournoi de la saison qui est à Newport, au temple de la renommée du tennis. Et c'est Adrian Manarino qui l'a emporté, un petit peu en surprenant tout le monde. Il a battu quand même Kevin Anderson, qui faisait son retour, le Sud-Africain, qui a battu aussi Gabriel Diallo au premier tour. Mm-hmm. Il a battu aussi Hugo Humbert, son compatriote. Et en finale, il a battu un nom qu'on ne connaissait pas, personne, Alex Mickelson. Ce gars-là a 18 ans, puis c'était son deuxième tournoi ATP. Il s'est rendu en finale en battant notamment John Isner. Lui-même n'en croyait pas ses yeux. Donc, c'est un bel exploit. Et Alex Mickelson, un nom à surveiller pour le futur. Et d'autres tournois maintenant. Il y avait des tournois encore sur terre battue. Un retour sur cette surface. André Roublev a battu Casper Ruud à Bastad en Suède. Un tournoi assez relevé. Casper Ruud toujours en forme sur terre battue dans des ATP 250. Et je tiens à souligner, là, dans ce tournoi-là, Léo Borg, le fils, si je ne me trompe pas, de Bjorn Borg, a battu son compatriote suédois Elias Immer pour avoir une victoire, je pense, sa première sur les circuits ATP. Donc, un Borg à surveiller dans le circuit, c'est le fun à voir. Et troisième tournoi de l'ATP, c'était à Gstaad en Suisse. C'est l'Argentin Pedro Cachin qui s'est imposé là-bas. Je crois que c'est son premier tournoi remporté sur le circuit ATP. Il a battu, c'était vraiment un tournoi avec des pros de la terre battue. Il a battu Albert Rabas-Vignolas en finale. Donc, bravo à lui. Une belle semaine pour lui. Dans la WTA maintenant, il y avait d'autres tournois. C'était surtout sur terre battue la semaine passée, notamment Bastad aussi. Et c'est Olga Danilovic qui l'a gagné, une joueuse serbe qui est 105e mondiale. Elle sort un peu des sentiers battus, on ne la connaît pas trop, mais elle va être à surveiller plus tard. Ouais, finalement, à Budapest, c'est une joueuse Lucky Loser qui a remporté le tournoi. On ne la connaît pas, c'est Maria Timofeva, elle est de Russie, qui est 129e mondiale. Elle a gagné le tournoi en surprenant tout le monde, une semaine de rêve pour la joueuse russe. Et vraiment, elle sera surveillée plus tard. Quand tu fais ça, gagner un tournoi en tant que Lucky Loser, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, nul doute qu'elle sera en mesure de compétitionner dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce qui fait vraiment le tour de la dernière semaine et semaine qui s'en vient. On aura surtout Atlanta à surveiller au niveau masculin et quelques autres tournois, dont Hambourg sur terre battue. Mais le vrai tennis va commencer la semaine prochaine à Washington, puis le fameux Omnium Bank National à Toronto et Montréal.
Ouais, c'est intéressant que tu aies parlé de Timofeva parce que elle n'a que 19 ans. Elle est autour de la 129e place mondiale et le tournoi qu'elle vient de remporter, c'est assez spectaculaire. Là, comme Lucky Loser, elle avait perdu, elle, au deuxième tour des qualifications contre Siskova et puis elle a fait le tournoi jusqu'au bout par la suite. Elle a d'ailleurs battu dans ce tournoi-là Daria Saville qu'on a vu l'année passée à Granby justement. C'est une fille qui joue pas beaucoup de tournois de type WTA là, qu'elle remporte le titre comme ça. C'est assez spectaculaire. C'est son premier titre de niveau de WTA. Alors, ça, c'est bien intéressant du côté de Timofeva. Ça va être une Russe à surveiller. Merci beaucoup, Abraham. Merci beaucoup, Michel Tassé, une fois de plus, de t'être joint à nous. Tu es la Bible de Granby. On aura l'occasion peut-être l'année prochaine d'en faire un autre épisode ensemble, je le souhaite, et d'en parler encore plus longuement. Et Nicolas Richard, je te donne le lourd mandat, comme c'est la tradition, de terminer l'épisode.